Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux. Première partie, du système de Descartes et de l'hypothèse de Monsieur de Buffon. Conclusion. Il est peu d'esprit assez sain pour se garantir des imaginations contagieuses. Nous sommes des corps faibles qui prenons toutes les impressions de l'air qui nous environne, et nos maladies dépendent bien plus de notre mauvais tempérament que des causes extérieures qui agissent sur nous. Il ne faut donc pas s'étonner de la facilité avec laquelle le monde embrasse les opinions les moins fondées. Ceux qui les inventent ou qui les renouvellent ont beaucoup de confiance, et ceux qu'ils prétendent instruire ont, s'il est possible, plus d'aveuglement encore. Comment pourrait-elle ne pas se répandre? Qu'un philosophe donc qui ambitionne de grands succès exagère les difficultés du sujet qu'il entreprend de traiter, qu'il agite chaque question comme s'il allait développer les ressorts les plus secrets des phénomènes, qu'il ne balance point à donner pour neufs les principes les plus rebattus, qu'il les généralise autant qu'il lui sera possible, qu'il affirme les choses dont son lecteur pourrait douter et dont il devrait douter lui-même, et qu'après bien des efforts, plutôt pour faire valoir ses veilles que pour rien établir, il ne manque pas de conclure qu'il a démontré ce qu'il était proposé de prouver. Il lui importe peu de remplir son objet. C'est à sa confiance à persuader que tout est dit quand il a parlé. Il ne se piquera pas de bien écrire lorsqu'il raisonnera. Alors les constructions longues et embarrassées échappent au lecteur comme les raisonnements. Il réservera tout l'art de son éloquence pour jeter de temps en temps de ces périodes artistement faites où l'on se livre à son imagination sans se mettre en peine du ton qu'on vient de quitter et de celui qu'on va reprendre, où l'on substitue au terme propre celui qui frappe davantage et où l'on se plaît à dire plus qu'on ne doit dire. Si quelques jolies phrases qu'un écrivain pourrait ne pas se permettre ne font pas lire un livre, elles le font feuilleter et l'on en parle. Traitassiez-vous les sujets les plus graves, on s'écriera « Ce philosophe est charmant ». Alors, considérant avec complaisance vos hypothèses, vous direz « Elles forment le système le plus digne du créateur ». Succès qui n'appartient qu'au philosophe qui, comme vous, aime à généraliser. Mais n'oubliez pas de traiter avec mépris ces observateurs qui ne suivent pas vos principes parce qu'ils sont plus timides que vous quand il s'agit de raisonner. Dites qu'ils admirent d'autant plus qu'ils observent davantage et qu'ils raisonnent moins, qu'ils nous étourdissent de merveilles qui ne sont pas dans la nature, comme si le Créateur n'était pas assez grand par ses ouvrages, et que nous crussions le faire plus grand par notre imbécilité. Reprochez-leur enfin des monstres de raisonnement sans nombre. Plaignez surtout ceux qui s'occupent à observer des insectes, car une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature. Et une réplique d'abeille ne sera jamais aux yeux de la raison qu'une foule de petites bêtes qui n'ont d'autre rapport avec nous que celui de nous fournir de la cire et du miel. Ainsi, tout entier à de grands objets, vous verrez Dieu créer l'univers, ordonner les existences, fonder la nature sur des lois invariables et perpétuelles, et vous vous garderez bien de le trouver attentif à conduire une république de mouches et fort occupé de la manière dont se doit plier l'aile d'un scarabée. Faites-le à votre image, regardez-le comme un grand naturaliste qui dédaigne les détails, crainte qu'un insecte ne tienne trop de place dans sa tête. Car vous chargeriez sa volonté de trop de petites lois, et vous dérogeriez à la noble simplicité de sa nature, si vous l'embarrassiez de quantités de statuts particuliers, dont l'un ne serait que pour les mouches, l'autre pour les hiboux, l'autre pour les mulots, etc. C'est ainsi que vous déterminerez à n'admettre que les principes que vous pourrez généraliser davantage. Ce n'est pas, au reste, qu'il ne vous soit permis de les oublier quelquefois. Trop d'exactitude rebute. On n'aime point à étudier un livre dont on entend les différentes parties que lorsque l'on l'entend tout entier. Si vous avez du génie, vous connaîtrez la portée des lecteurs, vous négligerez la méthode, et vous ne vous donnerez pas la peine de rapprocher vos idées. En effet, avec des principes vagues, avec des contradictions, avec peu de raisonnement, ou avec des raisonnements peu conséquents, on est entendu de tout le monde. Mais, direz-vous, est-il donc d'un naturaliste de juger des animaux par le volume? Ne doit-il entrer dans sa vaste tête que des planètes, des montagnes, des mers? Et faut-il que les plus petits objets soient des hommes, des chevaux, etc.? Quand toutes ces choses s'y arrangeraient dans le plus grand ordre et d'une manière tout à lui, quand l'univers tout entier serait engendré dans son cerveau et qu'il en sortirait comme du sein du chaos, il me semble que le plus petit insecte peut bien remplir la tête d'un philosophe moins ambitieux. Son organisation, ses facultés, ses mouvements offrent un spectacle que nous admirerons d'autant plus que nous l'observerons davantage parce que nous en raisonnerons mieux. D'ailleurs, l'abeille a bien d'autres rapports avec nous que celui de nous fournir de la cire et du miel. Elle a un sens intérieur matériel, des sens extérieurs, une réminiscence matérielle, des sensations corporelles, du plaisir, de la douleur, des besoins, des passions, des sensations combinées, l'expérience du sentiment. Elle a en un mot toutes les facultés qu'on explique si merveilleusement par l'ébranlement des nerfs. Je ne vois pas, ajouterez-vous, pourquoi je craindrais de charger et d'embarrasser la volonté du Créateur, ni pourquoi le soin de créer l'univers ne lui permettrait pas de s'occuper de la manière dont se doit plier l'aile d'un scarabée. Les lois, continuerez-vous, se multiplient autant que les êtres. Il est vrai que le système de l'univers est un, et qu'il y a par conséquent une loi générale que nous ne connaissons pas. Mais cette loi agit différemment suivant les circonstances, et de là naissent des lois particulières pour chaque espèce de chose, et même pour chaque individu. Il y a non seulement des statuts particuliers pour les mouches, il y en a encore pour chaque mouche. Ils nous paraissent de petites lois, parce que nous jugeons de leur objet par le volume. Mais ce sont de grandes lois, puisqu'ils entrent dans le système de l'univers. Je voudrais donc bien vainement suivre vos conseils. Mes hypothèses n'élèveraient pas la divinité. Mes critiques ne rabaisseraient pas les philosophes qui observent et qui admirent. Ils conserveront sans doute la considération que le public leur a accordée. Ils la méritent, parce que c'est à eux que la philosophie doit ses progrès. Après cette digression, il ne me reste plus qu'à rassembler les différentes propositions que M. de Buffon a avancées pour établir ses hypothèses. Il est bon d'exposer, en peu de mots, les différents principes qu'il adopte, l'accord qu'il a entre eux et les conséquences qu'il en tire. Je m'arrêterai surtout aux choses qui ne me paraissent pas aussi évidentes qu'à lui et sur lesquelles il me permettra de lui demander des éclaircissements. 1. Sentir. Ne peut-il se prendre que pour se mouvoir à l'occasion d'un choc ou d'une résistance pour apercevoir et comparer? Et si les bêtes n'aperçoivent ni ne comparent, leur faculté de sentir n'est-elle que la faculté d'être mue? 2. Ou si sentir est avoir du plaisir ou de la douleur, comment concilier ces deux propositions? La matière est incapable de sentiment et les bêtes, quoique purement matérielles, ont du sentiment. 3. Que peut-on entendre par des sensations corporelles si la matière ne sent pas? 4. Comment une seule et même personne peut-elle être composée de deux principes différents par leur nature, contraires par leur action, et douée chacun d'une manière de sentir qui leur est propre? 5. Comment ces deux principes sont-ils la source des contradictions de l'homme, si l'un est infiniment subordonné à l'autre, s'il n'est que le moyen, la cause secondaire, et s'il ne fait que ce que le principe supérieur lui permet? 6. Comment le principe matériel est-il infiniment subordonné s'il domine seul dans l'enfance, s'il commande impérieusement dans la jeunesse? 7. Pour assurer que le mécanisme fait tout dans les animaux, suffit-il de supposer d'un côté que ce sont des êtres purement matériels, et de prouver de l'autre, par des faits, que ce sont des êtres sensibles? Ne faudrait-il pas expliquer comment la faculté de sentir est l'effet des lois purement mécaniques? 8. Comment les bêtes peuvent-elles être sensibles et privées de toute espèce de connaissance? De quoi leur sert le sentiment s'il ne les éclaire pas, et si les lois mécaniques suffisent pour rendre raison de toute leur action? 9. Pourquoi le sens intérieur, ébranlé par les sens extérieurs, ne donne-t-il pas toujours à l'animal un mouvement incertain? 10. Pourquoi les sens relatifs à l'appétit ont-ils seuls la propriété de déterminer ces mouvements? 11. Que signifient ces mots instinct, appétit? Suffit-il de les prononcer pour rendre raison des choses? 12. Comment l'odorat ébranlé par les émanations du lait montre-t-il le lieu de la nourriture à l'animal qui vient de naître? Quel rapport y a-t-il entre cet ébranlement qui est dans l'animal et le lieu où est la nourriture? Quel guide fait si sûrement franchir ce passage? 13. Peut-on dire que parce que l'odorat est en nous plus obtus, il ne doit pas également instruire l'enfant nouveau-né? 14. De ce que les organes sont moins obtus, s'ensuit-il autre chose sinon que les ébranlements du sens intérieur sont plus vifs? Et parce qu'ils sont plus vifs, est-ce une raison pour qu'ils indiquent le lieu des objets? 15. Si les ébranlements qui se font dans le nerf qui est le siège de l'odorat montrent si bien les objets et le lieu où ils sont, pourquoi ceux qui se font dans le nerf optique n'ont-ils pas la même propriété? 16. Des yeux, qui seraient aussi peu obtus que l'odorat le plus fin, apercevraient-ils dès le premier instant le lieu des objets? 17. Si l'on ne peut accorder à la matière le sentiment, la sensation et la conscience d'existence, sans lui accorder la faculté de penser, d'agir et de sentir à peu près comme nous, Comment se peut-il que les bêtes soient douées de sentiments, de sensations, de conscience, d'existence, et qu'elles n'aient cependant pas la faculté de penser? 18. Si la sensation par laquelle nous voyons les objets simples et droits n'est qu'un jugement de notre âme occasionné par le toucher, comment les bêtes, qui n'ont point d'âme, qui ne jugent point, parviennent-elles à voir les objets simples et droits? 19. Ne faut-il pas qu'elles portent des jugements pour apercevoir hors d'elles les odeurs, les sons et les couleurs? 20. Peuvent-elles apercevoir les objets extérieurs et n'avoir point d'idées? Peuvent-elles sans mémoire contracter des habitudes et acquérir de l'expérience? 21. Qu'est-ce qu'une réminiscence matérielle qui ne consiste que dans le renouvellement des ébranlements du sens intérieur matériel? 22. De quel secours serait une mémoire ou une réminiscence qui rappellerait les sensations sans ordre, sans liaison et sans laisser une impression déterminée? 23. Comment les bêtes joignent-elles les sensations de l'odorat à celles des autres sens? Comment combinent-elles leurs sensations? Comment s'instruisent-elles si elles ne comparent pas, si elles ne jugent pas? 24. Parce que le mécanisme suffirait pour rendre raison des mouvements de 10 000 automates, qui agiraient tous avec des forces parfaitement égales, qui auraient précisément la même forme intérieure et extérieure, qui naîtraient et qui se métamorphoseraient tous au même instant, et qui seraient déterminés à n'agir que dans un lieu donné et circonscrit, faut-il croire que le mécanisme suffise aussi pour rendre raison des actions de 10 000 abeilles, qui agissent avec des forces inégales, qui n'ont pas absolument la même forme intérieure et extérieure, qui ne naissent pas et qui ne se métamorphosent pas au même instant, et qui sortent souvent du lieu où elles travaillent. 25. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas s'occuper de la manière dont se doit plier l'aile d'un scarabée? Comment se plierait cette aile si Dieu ne s'en occupait pas? 26. Comment des lois pour chaque espèce particulière chargeraient-elles et embarrasseraient-elles sa volonté? Les différentes espèces pourraient-elles se conserver si elles n'avaient pas chacune leur loi? 27. De ce que les images se peignent dans chaque œil et de ce qu'elles sont renversées, peut-on conclure que nos yeux voient naturellement les objets doubles et renversés? Y a-t-il même des images sur la rétine? Y a-t-il autre chose qu'un ébranlement? Cet ébranlement ne se borne-t-il pas à être la cause occasionnelle d'une modification de l'âme, et une pareille modification peut-elle par elle-même représenter de l'étendue et des objets? 28. Celui qui, ouvrant pour la première fois les yeux, croit que tout est en lui, discerne-t-il la voûte céleste, la verdure de la terre, le cristal des eaux? Démêle-t-il 1000 objets divers? 29. Pense-t-il à tourner les yeux, à fixer ses regards sur des objets qu'il n'aperçoit qu'en lui-même? Sait-il seulement s'il a des yeux? 30. Pense-t-il à se transporter dans un lieu qu'il ne voit que sur sa rétine et qu'il ne peut encore soupçonner hors de lui? 31. Pour découvrir un espace extérieur, faut-il qu'il s'y promène avant de le connaître et qu'il aille la tête haute et levée vers le ciel se heurter contre un palmier? Je néglige plusieurs questions que je pourrais faire encore, mais je pense que celles-là suffisent.